Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce vendredi 12 novembre 2021. Les évolutions s'accélèrent au Yémen et sur le terrain à Ma'arib, cette province stratégique que les forces armées, les comités populaires yéménites, en effet, sont sur le point de conquérir. En effet, ces forces s'approchent du chef-lieu de cette province et continuent de gagner du terrain sur le front de la guerre. D'importants sites et localités aux alentours de cette ville sont désormais sous le contrôle des forces yéménites. Et dans ce contexte, les alliés de la coalition d'agression saoudienne ont déclaré certaines parties de cette ville zone militaire et tenté d'imposer des restrictions. Toujours dans ce contexte, l'axe américano-sioniste aussi panique, d'autant plus que la mer Rouge pourrait, en effet, en cas de la chute de Ma'arib, échapper aux Américains, mais aussi aux Israéliens. Concernant les évolutions au Yémen, hier soir, le secrétaire général du Hezbollah a qualifié cette guerre d'inutile et souligné que la chute de Ma'arib pourrait en effet avoir des répercussions géostratégiques au niveau national, mais aussi régional. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur les toutes dernières évolutions au Yémen sur le plan militaire, mais aussi diplomatique. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Pour cette toute dernière étape avant la prise de Ma'arib et ses sites pétroliers à Safer, où Américains et Britanniques restent campés sur leur position, quitte à croire à un miracle qui tomberait soudain du ciel et leur sauverait de l'irréversible sort qui est le leur, méga capitulation face à Nasrallah. Ce dernier a réservé le meilleur de son arsenal. Outre les missiles 358 qu'il a réutilisés il y a deux jours pour chasser sa 10e drone américain de ces dernières semaines et de type Escan Eagle, la résistance yéménite a mis à l'heure des clips à missiles, soit cette sorte de mitrailleuse balistique qui consiste à lancer non pas un seul engin de précision comme fut le cas pour les sites pétroliers d'Aramco à Ras Tanura ou à Jeddah, mais entre 3 et 5 missiles, et non pas sur une seule et unique cible militaire, mais sur plusieurs. En l'occurrence, des bases militaires de façon à raser ce qui reste des forces d'occupation à Ma'arib, mais aussi leur soutien américano-britannique qui contourne depuis le sud du royaume à piloter les combats bien qu'ils les savent complètement perdus. Jeudi, alors même que l'ONU a décrété pour la première fois depuis 7 ans des sanctions contre plusieurs officiers de l'armée yéménite, signe que les choses vont très mal, les Américains et leurs satellites au Conseil de sécurité cumulaient les appels à la cessation des combats à Ma'arib. Les Yankees, eux, en sont même à être disponibles à revoir les plans entiers de leur cessez-le-feu de pacotille si Nasrallah cesse son avancée. Ils l'ont dit aux Omani, dont les liens avec Sanaa est très bon. Côté saoudien, c'est la folie et la panique. Les avions saoudiens bombardent sans arrêt Ma'arib, Sanaa, Sadda, non pas à coups de bombe classiques, mais à l'aide des missiles made in Israel Standoff, puisque le ciel de Ma'arib est désormais sous protection des missiles intercepteurs de la résistance. Ainsi, alors que les médias saoudiens continuent à prendre les vessies pour les lanternes et à prétendre que les missiles et drones des Houthis sont inexorablement interceptés, le général Sareh, porte-parole des forces yéménites, a fait état d'une contre-attaque exceptionnelle contre la région sud-ouest saoudienne d'Asir, tuant et blessant un grand nombre d'officiers et de forces saoudiennes. Les forces de défense yéménites ont tiré 3 missiles balistiques lors de l'opération de mercredi contre la province de Zahran al-Junoub à Asir, s'est-il félicité sur son compte Twitter. La vérité est que Washington et ses mandataires régionaux ont puisé toutes leurs cartes et ils sont en manque total d'alternatives et d'options, à moins que le sioniste Shenker ne réussissent à pousser l'administration à laisser tomber les masques et à engager ses troupes directement dans la guerre. Le Pentagone le fera-t-il? Au fait, cette guerre que les États-Unis ont commencée contre le Yémen pour éliminer leurs rivaux sino-russes de l'Est dans le détroit de Bab el-Mandeb, ils l'ont commencé en partie pour permettre à l'entité sioniste d'étendre aux frais de Riyad et Abu Dhabi sa présence en mer Rouge. Une présence militaire certes, mais aussi énergétique. Dire que cette guerre risque de finir en queue de poisson avec l'émergence d'une puissance armée mer rougienne de taille d'Nasrallah, qui plus est s'apprête à se pétrolier tout en ayant la capacité de contrôler le flux du pétrole saoudien. À coup de ses drones et missiles, cela ne revient pas à une simple défaite militaire, mais une défaite géostratégique.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités. Nous sommes en ligne depuis Toulouse avec Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Et depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au professeur Dortiguier.
Alors, l'actualité reste toujours le Yémen, notamment les combats autour de la province stratégique de Ma'arib. Les forces yéménites, en effet, s'approchent de plus en plus du chef-lieu de cette province. La libération de la ville semble imminente. Quelles seront les retombées nationales et régionales, les répercussions plutôt géostratégiques de la libération de Ma'arib, Maître Develet?
Écoutez, votre reportage l'a très bien souligné. La coalition émiratie saoudienne, bien sûr avec leur soutien logistique américano-sioniste, est aux abois. Ils ont eu l'opportunité depuis plusieurs années, par le biais d'intermédiaires et d'intercessions, d'engager avec la résistance yéménite de bonne foi afin de prendre en compte les revendications de celle-ci. À chaque fois, ces accords ou ces, si je puis dire, branches d'olivier se sont avérées être des faux nez qui étaient destinés essentiellement à gagner du temps et à repositionner leurs troupes ou à changer de tactique. En tout cas, rien sur le terrain qui satisfaisait les parties. Et en ce sens, on a toujours les mêmes paramètres. Rien n'a fondamentalement changé. La résistance yéménite demande la levée de l'embargo sur le port d'Hodeïda, la levée de l'embargo sur l'aéroport de Sanaa, à savoir non pas juste l'accès à des capitales golfiennes, mais à toutes les capitales possibles et inimaginables, et surtout la reconnaissance de leurs revendications. Et tout ça, si vous voulez, entre en contradiction directe avec cette résolution 2216 qui avait été signée en 2015, qui ne prend pas en compte la réalité sur le terrain, à savoir déjà pour commencer que l'administration démissionnaire du président Mansour Hadi n'a aucune crédibilité politique et il faudrait donc dans un premier temps probablement réfléchir à remplacer les interlocuteurs pour peu que ce soit ceux qui soient mis en avant afin de faire valoir les positions de Riyad, puisqu'après tout, les vrais interlocuteurs de la résistance yéménite sont les Saoudiens. Les Saoudiens se cachent derrière ce qui reste de l'égalité sur une réalité sur le terrain qui n'existe plus depuis maintenant plusieurs années, on peut le dire. Pendant ce temps-là, les opérations militaires continuent. La résistance yéménite a fait des progrès considérables. La libération de Ma'arib est imminente. Il y a une opération de construction du théâtre yéménite qui va être altérée de manière fondamentale, avec un accès aux gisements pétroliers, vous l'avez souligné, et la capacité ensuite de pouvoir projeter leur force dans tout le reste du pays à une vitesse exponentielle, si je puis dire. Donc, la situation actuelle pour la coalition est désespérée. On vient d'apprendre il y a deux jours qu'ils ont évacué en urgence leur base au sud du pays. Ils prétendent eux-mêmes qu'il ne s'agit que d'un redéploiement, mais ça ressemble de plus en plus à une débandade. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de processus diplomatique digne de ce nom, puisque les Saoudiens refusent encore une fois d'engager des pourparlers sérieux. Ils ont refusé la suggestion de la République islamique d'Iran de solliciter peut-être l'intercession du Hezbollah et du Hamas. Et donc, ce faisant, ils ne savent pas comment s'en sortir. Et en même temps, vous avez effectivement les experts pro-sionistes washingtoniens qui, eux, réalisent aussi qu'ils sont en train de perdre énormément, mais ils raisonnent en matière de défense de l'État sioniste et non pas en matière de défense des intérêts états-uniens, bien compris. Et ils réalisent que un Yémen qui rejoint l'axe de la résistance avec des ressources pétrolifères et un accès géostratégique à toutes les routes maritimes est une menace directe sur l'entité sioniste, à commencer par le port d'Elat, ce qui compléterait l'encerclement de l'entité sioniste avec la résistance libanaise au nord, l'armée syrienne à l'est et Ansarullah au sud. Donc la situation est plus que jamais, si je puis dire, inéluctable, et on peut s'attendre à si je peux dire, la fin de cette charade. L'armée yéménite et les comités
Merci, Maître Develay. Nous avons visiblement Je vous remercie infiniment, Maître Develay.
Attention de perdre leur temps avec des gesticulations diplomatiques.
Merci beaucoup. On va tout de suite rejoindre à Toulouse, Monsieur le professeur Pierre Dorguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, Monsieur Colabandé. Bonjour à tous vos auditeurs et à Maître Arnaud Develay, que je vois devant moi. Oui, je vous remercie.
Merci à vous. Monsieur le professeur, Maître Develay l'a rappelé, en effet. Aujourd'hui, la situation semble inéluctable pour les forces de la coalition saoudo-émiratique qui se trouve en mauvaise posture. Et de l'autre côté, bien sûr, les forces yéménites continuent de gagner du terrain. Alors, sont au seuil de la libération de la ville stratégique de Ma'arib. Et justement, dans ce contexte, certains milieux ont suggéré qu'un cessez-le-feu était instauré dans la ville. Et cette annonce est intervenue au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à la cessation du combat, des combats plutôt au Yémen. Est-ce que là, il ne s'agit pas d'une tentative, en effet, de retarder, voire de contrer l'avancée et la victoire définitive des forces yéménites?
Oui, en effet, il s'agit là de la part des Nations Unies, en fait, du Conseil de sécurité, d'une tentative, bien sûr, d'éviter le désastre, de reculer, car on ne peut pas parler d'autre chose, c'est plus qu'une défaite, c'est un véritable désastre, et votre commentateur l'a dit, c'est un désastre géostratégique. Pourquoi ? Parce que toute l'affaire avait été engagée autour des réserves pétrolifères, des réserves de matières premières, tout cela, c'est cela qui était, à mon avis, le moteur de l'agression saoudienne, agression qui n'est pas récente, je veux dire, qui ne date pas de quelques dizaines d'années, mais qui est évidemment très ancienne, puisqu'elle remonte, j'ai eu l'occasion de le dire quelquefois, à l'époque du président Nasser, voyez-vous. Il s'agissait d'une guerre yéménite, inter-yéménite à l'époque, mais qui était bien sûr dirigée, disons, soutenue, alimentée par les intérêts de l'Arabie saoudite, et derrière les intérêts de l'Arabie saoudite, il y avait bien sûr la stratégie américano-sioniste qui était constante. Alors aujourd'hui, cette défaite militaire, en particulier marquée par le fait que des appareils aussi perfectionnés que les Scan Eagle, par exemple, qu'un Scan Eagle en tout cas a pu être touché, tout ceci montre la maturité militaire des Yéménites et par là même la nécessité pour les patrons de l'Arabie saoudite. Je dirais, appelons-les les protecteurs de la naissance de l'Arabie saoudite jusqu'à maintenant, sont obligés, bien sûr, de reconsidérer leurs relations, non pas seulement avec le Yémen, mais avec l'axe de la résistance, et par là même avec les soutiens de la résistance. Et derrière, vous avez bien sûr ce profil l'entité russe, si je puis dire, qui elle-même a des entrées dans l'entité sioniste, et donc peut, disons, grâce aussi à ce qu'on a pu appeler, c'était l'opinion de M. Thierry Messant, j'ai vu dans le réseau Voltaire, peut-être aussi que nous allons voir se concrétiser ou apparaître davantage ce qu'on pourrait appeler un deuxième Yalta, c'est-à-dire, comme la première conférence de Yalta, une autre division, si je puis dire, non pas du monde, mais d'intérêt et d'influence entre les États-Unis et la Russie. Et bien sûr, l'entité sioniste, avec son nouveau gouvernement, qui a abandonné la ligne de M. Netanyahou, pourra certainement, je n'en doute pas, se plier à ces injonctions, sans toutefois, bien sûr, abandonner, bien sûr, son attitude agressive, parce que qui est liée, bien sûr, à la nature de l'État, c'est-à-dire au côté artificiel de la naissance de cet État.
Merci pour ces éclairages, Monsieur le Professeur, restez avec nous. Maître Develay, alors revenons au discours d'hier soir du secrétaire général du Hezbollah. Sayed Nasrallah a défendu, Maître Develay, en effet, la position du ministre libanais de l'information au sujet de la guerre inutile de l'Arabie saoudite, de la coalition saoudienne contre le Yémen. Il a souligné que l'essentiel était justement la situation humanitaire au Yémen, mais aussi ce désastre géostratégique dont parlait Monsieur le professeur d'Ortiguière. Pourquoi aujourd'hui, justement, non seulement la coalition saoudienne, mais aussi ses alliés dans la région et ses alliés extra-régionaux tentent de camoufler la vérité et de reléguer au second plan, justement, cette question essentielle, à savoir la guerre au Yémen, et de tenter plutôt de déclencher des tensions factices, en effet, en quelque sorte, entre l'Arabie saoudite, mais aussi les monarchies arabes, d'une part, et de l'autre, le Liban.
Bah écoutez, pour une raison très simple, je pense qu'ils n'ont absolument pas de solution, qu'ils n'ont pas les moyens diplomatiques qui leur permettraient de sortir de cette ornière la tête haute. Et donc, ils s'efforcent d'engager un processus de fuite en avant en ouvrant des dossiers artificiellement, tantôt au Liban, tantôt, que sais-je encore, en Irak. Pour essayer de gagner du temps, en fait, jusqu'à ce que une solution, ou en tout cas un mode opératoire, un cadre de travail, d'affronter. Et en cela, le secrétaire général du Hezbollah a parfaitement raison. Il s'agit avant tout d'une tentative de camouflage, d'une tentative dilatoire de reporter, alors en espérant un miracle militaire sur le terrain qui ne viendra pas de toute façon. Il est hors de question, malgré les injonctions de chaque heure pour les Américains, dans cette opération qui est déjà militairement réglée. Et ce faisant, il n'y a donc pas de solution immédiate, semblerait en tout cas. Et la seule option qui reste aux Saoudiens, c'est effectivement de créer des écrans de fumée. Aussi parce que, vous l'avez souligné, et ça on ne peut pas le sculpter, la situation humanitaire au Yémen est atroce. Il s'agit de la situation humanitaire que le monde, la pire qu'on ait vue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que tout a été camouflé, encore une fois, dissimulé, sous couvert, encore une fois, comme on le voit aussi en Syrie avec l'effet des sanctions, en essayant de placer le blâme sur la résistance yéménite et l'armée yéménite, alors que les sanctions sont parfaitement identifiées quant à leurs auteurs et ils ne pourront pas échapper à leurs responsabilités et au fait que toutes les règles de droit humanitaire ont été violées et que les médias, bien sûr, occidentaux, sont parfaitement complices. Donc tout cela n'est que, encore une fois, une expression de leur impuissance, et ils ne pourront pas berner l'opinion publique très longtemps. Quand on voit la réaction de l'opinion publique au Liban sur cette affaire Kordaï, on s'aperçoit que les ficelles sont trop grosses, et que malgré tous les moyens, si je puis dire, déployés pour créer une polémique dans une polémique qui permettrait de, si je puis dire, noyer le poisson, l'opinion publique, malgré la difficulté quotidienne auxquelles ils sont confrontés, sur des points bien précis, tels que la guerre au Yémen, personne n'est dû. Donc Riyad est dans une impasse totale, et le temps presse, si je puis dire, puisque la résistance yéménite n'a pas. Elle procède de manière coordonnée et déterminée à avancer, faire valoir ses avantages stratégiques et donc mettre un terme d'une manière ou d'une autre au conflit
Merci, merci, merci beaucoup. Maître de Vallée, une toute dernière question à Monsieur le professeur Dortiguier. Monsieur le professeur, alors ces derniers temps, on a multiplié des agissements, non seulement au sein des instances internationales, le dernier en date, bien sûr, cet appel du Conseil de sécurité à la fin des combats à Marib, mais aussi dans la région et sur le plan militaire. D'abord, qu'est-ce qui fait peur, justement, à l'axe américano-israélien, d'une part, et d'autre part, avec ces tentatives dilatoires de la coalition saoudienne, mais aussi de ses alliés, en effet. Comment prévoyez-vous la perspective des évolutions à venir?
Bien, il semble que, d'après ce que vous dites, ce que l'on sait, l'axe de la résistance s'est fortifié. Il s'est fortifié, bien sûr, sur le terrain en Syrie, il s'est fortifié, il se fortifie maintenant au Yémen, mais également au Liban, où je crois les sionistes, enfin, ce qu'on appelle les intrigues, ceux qui mènent les intrigues locales, comptaient trouver, non pas un appui, mais disons une situation favorable à leur mener, en paralysant en tout cas cet axe de la résistance. Or, il se trouve avec l'affaire Kordaï, avec cette cabale qui a été dirigée contre le ministre des Affaires étrangères, il y a là un deuxième camouflet, une gifle reçue par justement l'Arabie Saoudite, et derrière l'Arabie Saoudite, qui n'a d'existence que par ses soutiens, ceci dit depuis le début de sa formation, eh bien l'axe, ce qu'on pourrait appeler, disons, l'autre axe, le système américano-sioniste lui-même, et sur la défensive. Et il a perdu, disons, il a réalisé contre lui une union de forces qui ne sont pas entièrement homogènes, qui sont différentes, bien sûr, mais qui sont unies quant à la volonté, disons, d'éloigner des influences étrangères trop pesantes. Je crois que, c'est ma conclusion, en disant, enfin, ce que je peux apercevoir, par raisonnement, disons, probabilitaire, c'est que les Américains, en tout cas l'administration de Biden, tirera, je crois, des leçons de cela, car les Américains sont bien sûr engagés à soutenir leur allié, mais je crois que le réalisme économique l'emporte, vu les difficultés que trouve le monde du point de vue énergétique et autres. Je crois que l'axe de la résistance, en tout cas, se sort renforcé, et que ses adversaires feront moins appel à la force violente qu'à la ruse. Je crois que c'est une deuxième offensive, mais beaucoup plus feutrée, voyez-vous, à laquelle nous devons faire face. Et il est certain que les pays, disons, autour, les pays comme la Chine, les pays comme la Russie, etc., joueront leur rôle. Mais en tout cas, je crois que la grande bataille qui a été perdue au Yémen a été suivie d'une bataille sur le terrain au Liban. Bien sûr, je ne parle pas de la Syrie, mais le Liban a échappé, à mon avis, à l'emprise cette puissance saoudienne, voyez-vous, qui a toujours été une puissance de désordre et de dislocation. Et là, je crois que c'est un réconfort, en tout cas, pour ce qu'on appelle, je le répète, l'axe de la résistance. Et en même temps, c'est une aide pour nous en Europe, parce que nous voulons toujours, je prends notre point de vue quand même, retrouver la liberté que nous avions dans ces années 60-70, que nous avons perdue en nous courbant justement devant les dictates qu'on appelle américano-sionistes. C'est vrai que ceux-ci seront de plus en plus apparents, en tout cas, non seulement sur place, mais également à l'extérieur, y compris en Europe.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, maître Arnaud Develet, juriste international et spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
Merci.
Merci, monsieur Develet. Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Merci.